Aujourd'hui, sur les ondes de Radio Royan-Vercors, on continue à parler des ruralités queer et des enjeux que l'on rencontre lorsque l'on est une personne LGBTQIA+ à la campagne. Alors évidemment, il y a une diversité de vécu et une diversité de campagne aussi. Aujourd'hui, on va parler de notre campagne à nous dans le Royan, mais aussi d'autres campagnes, que ce soit ailleurs dans la Drôme ou dans d'autres départements. Pour en parler, on est avec Élodie Potente. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Alors Élodie, toi tu es journaliste et tu as produit et réalisé une série de podcasts sur les enjeux queer à la campagne. Ça s'appelle Champ Queer, un travail de terrain qui donne la parole à celles et ceux que l'on entend rarement dans les médias, comme dans l'espace public d'ailleurs, à savoir les personnes LGBTQIA+, qui vivent en milieu rural. Alors pour commencer, moi je voulais te demander pourquoi ce nom. Donc ton podcast il s'appelle Champ Queer, Champ CHAMPS. Et est-ce que tu pourrais nous définir ce terme queer? On pense qu'on a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui n'ont pas l'habitude de l'entendre dans leur quotidien, dans le Royan-Vercors. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus dans les communautés pour se définir. Mais voilà, je voulais te demander, pour commencer, c'est quoi pour toi être queer?
Alors, pour moi, être queer, c'est quelque chose qui est apparu en même temps que j'ai réalisé le podcast, je pense. C'est autre chose que lesbienne, qui est un autre mot qui me définit. Pour moi, ça englobe toutes les identités de genre et toutes les orientations sexuelles, enfin, toutes les lettres qui font notre sigle LGBTQIA+. Et en fait, c'est aussi un mot qui a été beaucoup utilisé pour, de façon négative. Quand on disait queer dans les années 70, c'était quelqu'un de hors norme, à la marge. C'était un peu freak, monstre, quoi. Et en fait, ça a été réapproprié par la communauté. Et moi, ce mot, je l'adore, je le trouve magnifique. Et je sais qu'il y a plein de gens, peut-être, qui l'utilisent pas ou voilà, qui en sentent pas le besoin aussi. Mais moi, je pense qu'il fait partie aussi de mon identité complètement. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le nom de mon podcast. Et je voulais un nom qui soit assez court, qui soit assez percutant, où on puisse se dire, ça parle de ça. Tout en étant un peu poétique aussi, donc je trouve que voilà, j'aime beaucoup ce nom, quoi.
Et donc ce travail de podcast, donc c'est une série que tu as commencé en 2022 ou 2023, et donc il a notamment commencé du côté de la Drôme avec la Pride de Cré. Comment t'es venue l'idée? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail à la fois journalistique et peut-être militant?
Alors du coup, j'ai commencé à tourner en 2022, mais j'ai sorti le premier épisode en 2023, puisque ben, ça met du temps. Moi, je suis arrivée dans la Drôme en 2018, après avoir vécu un petit peu à Toulouse et puis un petit peu partout pour mes études. Toulouse, c'était, je pense, la plus grosse ville où j'ai vécu de toute ma vie, mis à part mes stages, mais bon, c'est voilà. Et je suis arrivée dans la Drôme et j'ai été journaliste à Cré pendant 2 ans. Et ensuite, j'étais journaliste à Die pendant 3 ans, et pigiste à côté. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit, ok, est-ce que je suis en train de me replacardiser? Ce que je pensais être quelque chose de fait, quoi, d'être sortie du placard et d'être out et fière. En fait, pas du tout, quoi. Dans la Drôme, j'étais là, mais en fait, j'étais toute seule. Enfin, 2018, on n'était pas encore dans les prémices des prides rurales, etc. Mais par contre, on m'a tout de suite parlé de la Pride de Cré de 2013, où les gens s'étaient mobilisés pour réaffirmer leur existence à Cré et aux alentours, parce que Hervé Mariton était à l'époque député et maire, mais à l'époque on pouvait cumuler les mandats, et il avait largement voté contre le mariage pour tous, et il avait même eu des déclarations assez problématiques. Et donc, les gens s'étaient mobilisés. Il y avait eu une Pride en 2013, il y avait eu 2500 personnes. Le fait qu'on me raconte ça assez rapidement, alors que j'étais pas forcément out dans mon travail ou dans mes relations sociales, ça m'a vachement marqué. Et en 2022, il y a eu une Pride qui s'est faite presque 10 ans après. Moi, j'avais pris mon enregistreur ce jour-là. J'y suis allée avec mon amoureuse et des amis. Et en fait, c'est vraiment le moment où il y a Nathalie, qui était une des organisatrices de la Pride de 2013, qui a parlé, où j'ai enregistré ce moment, et je me suis dit, ok, en fait, c'est ça qu'il faut que je raconte, il y a quelque chose qui se passe là, enfin, c'est incroyable, en fait, on est presque 10 ans après, tout a changé, rien n'a changé, et moi, je suis là, et en fait, ça faisait 4 ans que je vivais dans ce territoire, et il y avait assez peu de gens, finalement, qui savaient que j'étais lesbienne, de par aussi le fait que j'étais journaliste, et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, quoi, j'ai l'impression que ça s'écrit sous mes yeux, moi, c'est très organique, ma façon de travailler, et donc, voilà, j'ai commencé à... J'avais documenté la Pride et puis après j'ai lancé un appel pour interviewer des personnes qui l'avaient organisée. Après, j'ai écrit mon épisode et puis après, je me suis dit, ok, bah, je crois qu'en fait, j'ai pas du tout envie de m'arrêter là. J'ai envie d'aller explorer ce sujet qui me travaille depuis un moment parce que j'avais écrit 2 articles dessus, mais bon, c'était, bon, bref, j'étais aux prémices, quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est né.
Et après, donc, au fur et à mesure du podcast, donc, les épisodes se sont enchaînés petit à petit. Tu as exploré pas mal de thématiques différentes. On va revenir dessus durant cette interview. Et juste avant ça, moi, je voulais te demander, donc, le travail a commencé autour de Cré et dans la Drôme. Et puis, petit à petit, on se balade au fur et à mesure du podcast dans d'autres villages, dans d'autres départements. Ça, c'est pareil. Comment est-ce que c'est venu pour toi, cette envie d'aller voir aussi d'autres campagnes? Est-ce que ça s'est fait de manière organique, comme tu viens de le dire, c'est des histoires de hasard de rencontre, ou est-ce que au contraire, tu avais envie de voir qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui diffère aussi dans nos vécus, quoi?
Bah, en fait, il y avait à la fois le fait que je connaissais très très bien la Drôme pour l'avoir un peu sillonnée pendant 6 ans, je la connais, enfin du moins la vallée de la Drôme, je la connais très 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 bien. Donc un peu envie de sortir aussi de la Drôme, c'était l'occasion, c'est le projet pour sortir parce que c'est pas facile quand on est, moi j'étais localière et pigiste et c'est pas facile d'aller faire des reportages ailleurs. Donc voilà, on a son terrain et bon, bah, le terrain à un moment donné, il devient petit. Donc bon, et là, c'était vraiment le projet pour aller voir ce qui se passait ailleurs, aussi par rapport à mes lectures, par rapport à ce que je voyais naître en fait sur les prides. Et je me disais, en fait, on a tellement de choses en commun avec d'autres ruralités et en même temps, on est tellement différents parce que évidemment, la Drôme, la vallée de la Drôme est un territoire particulier, comme celui dans lequel je suis actuellement, qui est le Comminges dans les Pyrénées centrales. Et voilà, comme peut l'être aussi des territoires dans le nord qui sont désindustrialisés, ou dans le centre où il y a quand même eu moins de retour à la terre que dans la Drôme. En fait, on a plein de choses qui nous différencient et en même temps, on a un espèce de socle commun où on se sait, quoi. Et je voulais aller vérifier cette hypothèse que je sentais en moi. Et c'est ce que, bah, c'est ce que j'ai vérifié, c'est sûr. Mais en même temps, il y a tellement de spécificités aussi d'une vallée à l'autre. Bah, par exemple, le Royan vs la vallée de la Drôme. Enfin, déjà, le Diois et le Crétois, c'est complètement différent pour avoir vécu dans les deux. Du coup, voilà, aussi cette sensation de vouloir être subtile, être fine, être nuancée, complexe, en fait, et de ne pas nous attribuer une espèce de bloc de ce qu'on serait, en fait. Donc, c'est vraiment ça que je voulais faire, quoi. Et voilà.
Moi, je trouve que c'est ce qu'on remarque au fur et à mesure des épisodes, c'est que tu apportes de la complexité et de la nuance dans plein d'une sorte d'idées reçues où on pourrait se dire, bah oui, la ruralité, c'est difficile. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir de la douleur, de l'invisibilisation. Mais au fur et à mesure de tes épisodes, on découvre justement de la complexité, des joies, des espaces de solidarité, des espaces de résistance. Et je trouve que, ouais, il y a cette complexité, j'arrive pas à trouver d'autres mots, qui transparaît. Et bah, évidemment, il y a beaucoup d'épisodes où on ressent certains manques pour les personnes qui habitent la ruralité et qui sont concernées par cette question queer ou LGBTQIA+, en fonction de comment est-ce qu'on se définit. Et je voulais faire un petit bond. Donc, au fur et à mesure de l'interview, je voulais te proposer d'écouter des petits sons qu'on a enregistrés avec ma collègue Céline lors de la projection du documentaire Pédale Rurale, qui est un docu d'Antoine Vasquez. On l'a projeté le 8 janvier 2026 à la salle des fêtes de Saint-Nazaire en Royan. Et donc, c'était un peu un premier test de créer un espace public, un espace ouvert à tous et toutes. On a choisi la salle des fêtes aussi pour ça, pour pas que ce soit un lieu qui soit trop identifié ou trop raccroché à d'autres milieux, d'autres sphères culturelles du Royan. Et donc, à savoir qu'il n'y a pas de lieu associatif, il n'y a pas de bar queer ici, il n'y a pas vraiment de visibilité. Et on était assez surpris parce qu'il y a 90 personnes qui sont venues. Et donc, on a proposé à certaines personnes de les écouter, de les enregistrer. On a fait un petit micro-trottoir. Je te propose d'écouter une personne qu'on a interrogée avant la projection. C'est une personne qui se définit comme queer et qui nous parle de ce qui lui manque dans le Royan. Donc, il habite dans un petit village de 100 personnes.
J'ai envie d'être dans la campagne. Donc, c'était très difficile pour moi aux villes aussi. Donc, voilà. Mais finalement, j'ai trouvé mon conjoint et comme ça, j'avais... la possibilité émotionnellement de rester en campagne. Sinon, je resterai aux villes. On manque beaucoup de culture queer, on peut dire. Je suis connecté déjà avec des groupes de queer dans la campagne, mais il faut bouger pas mal pour être avec ces gens-là, donc c'est pas très pratique quotidien, quoi. Bon, surtout de connecter avec les autres gens dans la campagne. On est tous un peu cachés dans la forêt, dans le rocher, ici, dans le royaume. Donc, c'est important de sortir un peu pour voir des gens, d'être présents.
Et donc, je t'ai proposé d'écouter donc, cet extrait de micro-trottoir parce que j'ai l'impression que ça fait écho à certaines choses que tu as pu explorer dans tes podcasts. Est-ce que ça te crée une réaction à chaud, ce qu'on vient d'écouter ?
Ouais, c'est en gros, c'est l'expérience de l'isolement dans l'isolement, je trouve. C'est en fait la mobilité, c'est vraiment un sujet majeur dans nos territoires. Bon, j'apprends rien quand je dis ça, mais en fait, moi je l'ai ressenti beaucoup en vivant dans le Haut-Diwa, plus qu'à Cré, évidemment, parce que c'est beaucoup plus retiré et je me sentais très isolée, je me sentais très loin de tout et en fait, sortir d'un territoire, enfin ici c'est pareil dans le Luchonnet qui est vraiment le fond de la vallée, qui est beaucoup moins accessible et en fait sortir de son endroit un peu enclavé, ça peut être très difficile déjà quand on n'est pas une personne queer ou voilà, enfin quand on veut faire des courses ou quand on veut aller accéder à de la culture, peu importe. Et en fait, du coup, c'est super difficile de se dire, on est à une demi-heure de trop, de tout, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je ressentais, c'est que déjà, j'étais à 15 minutes de 10, et puis après, il fallait aller après 10, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très particulier à certaines vallées, à certains territoires, notamment en montagne. C'est d'être dans le fond de la vallée, d'être un peu trop loin de tout, tout le temps, quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le système des transports en commun n'est pas toujours efficient. C'est super, parfois super cher, parfois super dur de trouver les bons horaires. Et voilà, ça prouve en fait que les thématiques qui touchent les ruralités en général, notamment la mobilité, etc., en fait, ça nous touche d'autant plus. Évidemment, y a des systèmes de solidarité où on peut faire du covoit, etc. Mais c'est vraiment ce truc d'être un peu trop loin. Et c'est subtil, quoi, parce qu'on s'en aperçoit pas toujours. Mais en fait, c'est vraiment... Il faut vraiment choisir où on habite, je trouve. Et ça nous contraint, en fait, dans nos choix de vie, quoi.
Carrément. Et là, ce qui est marrant, c'est donc qu'il racontait que, qu'il avait choisi de venir ici parce que c'était aussi un espace qu'il a trouvé très accueillant pour lui et son conjoint. Donc, il y a un peu ce paradoxe de le petit village de 100 personnes que j'ai trouvé, je le trouve hyper accueillant, je m'y sens bien. Et en même temps, je me sens loin... de certains centres ou de certaines autres campagnes. Et donc, il me parle aussi d'absence de culture queer dans le royaume. Ça, c'est revenu pas mal de fois le soir donc de cette projection de Pédale Rurale. Je me demandais, est-ce que toi, au fil de ton expérience, tu as pu rencontrer des ruralités ou des campagnes où il y avait une culture queer qui était déjà présente? Si oui, à quoi c'est dû? Comment est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que c'est un groupe de personnes qui vient transposer une culture queer qu'on pourrait avoir en ville? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut recréer parce qu'en fait, on ne peut pas tout transposer, quoi?
Pour moi, il y a deux sens du mot culture. Il y a la culture au sens ce qu'on est, qu'est-ce qui nous définit, etc. Je pense que tout le monde a une culture... toutes les personnes queer on apprennent à avoir une culture queer qui transportent en elles, peu importe où elles vont, en fait, finalement. Mais après, diffuser cette culture, en fait, c'est super compliqué. Donc là, je vais faire un petit peu d'auto-promo, mais moi, je fais partie d'une asso qui s'appelle La Claque, queer lesbienne alternative du Comminges. Et donc, un de nos objets associatifs, c'est de diffuser de la culture queer dans le Comminges, qui est un très grand territoire de 70 000 habitants, qui va des Pyrénées jusque, on va dire, le sud de Toulouse, quoi. Un peu loin de la métropole, mais voilà. Et en fait, on s'aperçoit que ça prend du temps et tout, mais nous, on a une force de frappe qui fait que, en fait, on peut faire de la diffusion. Là, on est en train de diffuser plein de films dans les cinémas du Comminges grâce à un festival toulousain qui s'appelle Dizimage Homo qui nous permet de diffuser dans le reste de l'Occitanie, quoi. Et en fait, on fait plein d'autres choses. On fait de l'arpentage. Là, on va faire une table ronde sur la bisexualité. Mais en fait, on est aussi un noyau dur qui fait que c'est aussi une volonté. On fait plein de choses. Et notre volonté, c'est de faire plein de choses et de ramener de la culture. Et aussi de dire aux gens, venez voir ce film, même si... ça parle pas de vous, bah ça parle peut-être de votre enfant ou de votre cousin ou j'en sais rien. Et ça marche en fait, ça marche. Les acteurs locaux sont très, sont vraiment des partenaires très très privilégiés pour nous. Mais parce qu'en fait, on leur montre que c'est possible de faire des choses qui ont du sens. Après, je pense que c'est parce qu'on est aussi dans un territoire qui n'est pas une vallée. Moi, je pense que vraiment, il y a une notion de géographie qui est très importante. Et on n'est pas une vallée, on est vraiment un large territoire où les gens peuvent vivre à 40 minutes, voire 50 minutes les uns les unes des autres, avec de la montagne, de la plaine, de l'industrie, de l'agriculture. Enfin voilà, beaucoup de choses très différentes et aussi beaucoup de précarité. Ce qui fait que, ben, en fait, ramener de la culture, peu importe, en fait, les gens sont hyper ouverts à ça. Et du coup, après, il y a d'autres territoires, je pense, où ouais, j'ai vu des choses... J'étais super surprise, par exemple, je suis allée à un festival en Haute-Vienne qui s'appelle le Festimeuf. Et on avait fait une table ronde sur les ruralités et après j'avais fait un atelier sur les ruralités queer. Et en fait, je sais pas, ça, pour moi c'était hyper beau de voir ce mélange de, à la fois des familles hétérosexuelles, enfin hétéroparentales, des familles homoparentales et des jeunes, des vieux, plein de gens qui... A priori, ben, je sais pas, peut-être sont pas dans le même cercle, mais avaient envie d'être là ensemble. Et moi, je pense que c'est pour ramener de la culture LGBT, c'est organiser des événements et parier sur le fait que les gens vont quand même venir, même si ça parle pas d'eux. Ce qui, en soi, est le cas là où je vis, et je pense est le cas dans plein d'autres endroits que j'ai pu voir. Et je trouve que voilà, je trouve que c'est peut-être à nous de faire, quoi. Là, nous, on la transporte en nous, mais peut-être qu'elle ne va pas venir toute seule. Et aussi, un autre truc intéressant, c'est d'ouvrir les oreilles, quoi. Parce qu'il y a plein d'histoires de villages où on sait qu'une telle était avec une telle et qu'en fait, elles ne l'ont jamais dit. Que... Et en fait, juste dire parfois, bah, moi, je suis lesbienne, ça peut ouvrir aussi la parole à d'autres personnes qui ne l'ont jamais dit ou qui l'ont silenciée. Ou... Et ça, ça permet de faire une culture peut-être plus de village, en mode oui, bah oui, enfin notre voisin il est homo et alors, enfin on l'a jamais dit, mais en fait ouais. Et du coup, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça de lien social quoi. Après c'est sûr que ça dépend des actrices locaux, locales, genre bon bah si c'est un territoire plus RN, c'est sûr que ça va être compliqué, je pense peut-être. Quoique en fait, enfin je veux dire. Voilà, pour moi, c'est vraiment une question de s'ancrer au local le plus possible et de faire des choses, quoi. Faire, et voilà.
Et ce que je trouve assez chouette dans ce que tu nous racontes là, donc ce que vous faites avec la Sola Claque, c'est que, du coup, en créant des événements, à la fois, ça crée un espace pour les personnes concernées pour se rencontrer, se découvrir, peut-être aussi échanger bah, du vécu, justement, que ce soit des moments de joie ou des moments de plus de difficultés. Et en même temps, ça crée de la sensibilisation, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'espace où on peut s'informer. On reste un peu avec des idées préconçues, des peurs, et du coup je trouve ça assez chouette comme espace en tout cas de création de culture queer quoi. Nous c'est ce qu'on essaye de faire un peu sur les ondes radio, mais c'est vrai que ça manque de rencontres et d'espaces vivants, et donc c'est assez inspirant. Ça m'amène, du coup, il y a un de tes épisodes, même plusieurs, qui abordent des espaces d'utopie, du coup qui là on touche comme à d'autres choses qui sont ben, des espaces de solidarité, des espaces de résistance qui peuvent se créer en milieu rural aussi, c'est ce que permet la ruralité. Est-ce que toi, t'as rencontré des formes d'organisation ou des formes de résistance à la campagne qu'on ne voit pas en ville ?
Bah juste, pour moi, l'entièreté des ruralités sont des alternatives, enfin des formes de vie alternatives de résistance, alors évidemment avec plein de nuances et de complexités, mais pour moi en fait le fait même que les ruralités dans leur différence et dans leur pluralité ont en commun d'avoir lutté pour à peu près tout ce qui existe, c'est-à-dire tous les services publics, tout le train, enfin tout ce qui leur était dû, en fait ce qui leur est dû, puisque ben voilà, un tiers des habitants de l'Hexagone vivent en ruralité, ce qui veut dire que en fait il y a un tiers de personnes enfin, qui payent les mêmes impôts que tout le monde et qui n'ont pas droit aux mêmes services. Pour moi, en fait, c'est des espaces de résistance parce que dans les luttes locales que moi j'ai documentées ou que je documente encore, en fait, il y a toujours cette lutte qui n'est pas forcément politisée. En fait, c'est juste on va lutter pour sa maternité, on va lutter pour son hôpital, on va lutter pour son train, pour son trésor public, pour son épicerie, pour son café. Et ça, ces luttes-là, en fait, ou pour ses terres aussi. Et ces luttes-là, elles sont pour moi, elles sont vraiment le ciment d'une forme de société alternative qui est déjà en cours et qu'on veut détruire, enfin que le Rassemblement National souhaite détruire, et voilà. Mais en tout cas, l'État est parti depuis très longtemps, et les gens ont fait sans, quoi. Ils ont fait sans comme ils ont pu, hein. Mais en même temps, il y a une forme de solidarité que je retrouverai jamais, peut-être si, dans les quartiers populaires, mais à part ça, c'est sûr que... Voilà, on est ensemble, en fait. Pour moi, en tout cas, quand j'analyse ce système-là, je me dis, OK, ben, tous les 5 ans, il y a des gens qui mettent un bulletin dans une urne, et c'est peut-être pas le bulletin que moi, je souhaiterais voir. Mais en tout cas, dans ces moments-là du quotidien, ben, en fait, ouais, t'appelles ton voisin, il vient, quoi. Et du coup, évidemment que nous aussi, on a des formes de vie et de lutte différentes des personnes hétéros. Et quand on vit en ruralité, ben, en fait, on a déjà cet ancrage-là de solidarité, de vie alternative. Et pour moi, c'est un peu comme une prolongation, en fait, de ce qu'on est, quoi. En étant queer et ruraux, en fait, on a doublement un effet de réflexion qui est déjà différente, en fait, de ce qu'on peut voir ailleurs. Pour moi, c'est vraiment dans nos ADN, quoi. Et c'est quand même fou de se dire que la première chose qui vient dans la tête des gens quand on dit qu'on vit en ruralité, qu'on est queer, c'est est-ce que c'est pas trop dur ? Alors que je trouve qu'on ne s'interroge jamais sur « Ok, mais qu'est-ce que ça fait, quoi ? Quelle solidarité ?» ou On est tout le temps dans un truc hyper négatif. Mais si les gens sont aussi ce qu'ils sont, parfois en ruralité, si le RN progresse, etc., c'est parce que l'État, en fait, parce que structurellement, la société, elle a été faite comme ça pour que les gens se divisent. Et c'est un peu le je sais pas comment dire, c'est comme si on espérait que... les gens ne perdent pas la raison alors que, ben, en fait, on leur a tout enlevé, quoi. C'est un peu misérabiliste ce que je dis, mais c'est vrai, quoi. Enfin, moi, j'ai vu des luttes tout le temps, quoi. Tout le temps, tous les jours. Il y a quelque chose à sauver ou quelque chose à changer. Et en fait, c'est juste épuisant. Enfin, juste, c'est épuisant. Et nous aussi, on est épuisés en tant que personne queer. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est même plus logique d'être une personne queer en milieu rural qu'en milieu urbain, quoi. Pour moi, c'est un peu... la suite logique des choses, c'est oui, ben en fait, on lutte, quoi. Voilà.
Et est-ce que tu as pu rencontrer des exemples, enfin, est-ce que tu pourrais nous raconter des exemples de lieux, peut-être, ou d'associations queer que tu as pu rencontrer ? Comment est-ce que ça se matérialise au quotidien, en fait, cette solidarité ? Est-ce que c'est informel et c'est dans des réseaux d'amitié ou de voisinage ? Ou alors est-ce qu'au contraire, de temps en temps, il y a des formes d'organisation qui sont présentes ?
Alors, les lieux, je pense, les lieux 100% queer en milieu rural, ça va être compliqué, je pense. Je crois qu'il y a un ou deux bars, mais déjà, les bars en milieu urbain sont en train de disparaître. D'ailleurs, il y a un projet aux États-Unis, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'était... genre, les réalisatrices s'étaient aperçues qu'il restait, genre, 21 bars lesbiens aux États-Unis, quoi. Donc, bon, voilà. Et en fait... je pense que c'est utopique de penser qu'on va créer des espaces 100% queer. Par contre, il y a des cafés associatifs ou des tiers-lieux ou d'autres types de lieux comme les espaces jeunes, les MJC. En tout cas, moi, dans mon collectif, on nous prête des lieux. Les cinémas, ils sont vachement partants pour nous prêter des salles. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Après, il y a énormément d'associations qui se sont montées en milieu rural. Cette année, il y avait 40 Pride, parce que moi, je les compte chaque année, 40 Pride rurales, qui est énorme, en fait. L'année d'avant, je crois qu'il n'y en avait que 25. Il y a des petites Prides, des grandes Prides, Et en fait, dans ces Prides-là, il y a toujours des alliés, des personnes qui sont là pour être bénévoles, qui ne sont pas forcément queer. Il y a des personnes qui viennent avec leurs enfants. C'est aussi des Prides très familiales. Et en fait, l'idée, c'est aussi de créer une asso ou un collectif, c'est de sortir un peu de la Pride en elle-même et d'aller sur des événements plutôt dans les ailes de saison, en hiver, etc., qui sont un peu plus rudes pour nous, je pense. En fait, en gros, moi, je vois des collectifs et des assos partout, quoi. Partout, mais dans les petites vallées, comme là, dans le Béarn, comme dans nous, on va dire, un territoire plus large, mais il y a aussi... il y en a dans la Creuse, en Haute-Vienne. Enfin, je pourrais nommer à peu près tous les départements, je pense, parce que ça, c'est florissant, quoi. Il y a vraiment tout type d'objets associatifs aussi. Par exemple, je crois que c'est dans le Lot-et-Garonne, il y a un collectif de drague rural. Ça peut être, comme nous, quelque chose d'assez généraliste, mais ça peut être aussi très spécifique. Ça peut être spécifique à un territoire. Enfin, en gros, il y a vraiment tout type, tout format, en fait. Et ça prouve juste que les gens se mobilisent aussi. peut-être plus, en ayant plus d'espoir de se voir visibiliser. Mais en tout cas, moi, je vois que bah, y a toujours un café qui va dire oui, il y a toujours un ciné qui va dire oui, et même bah, être subventionné. Enfin, voilà, les institutions subventionnent, soutiennent, et parfois bah, les communes aussi. Il y a plein de formats de solidarité. Et après, il y a l'intersection des luttes qui est énormément présente. Dans le collectif où je suis, il y a beaucoup de liens avec les collectifs féministes du coin. Bah, je l'ai aussi vu dans la Drôme, je l'ai vu partout, quoi, dans la Creuse. En fait, il y a un lien voilà, intersectionnel. Et après, il y a les liens lutte écolo aussi. Il y a les liens lutte politique contre le RN. Et voilà, préservation de, je sais pas, la forêt, préservation de l'eau. En fait, il y a tout ce mélange un peu. Et souvent, on retrouve des gens dans plusieurs collectifs. Moi, j'ai jamais vu une personne queer qui luttait dans un seul collectif, en fait. Déjà, on lutte pas pour soi-même, en fait. Pas que pour soi-même. On lutte aussi pour le territoire dans son ensemble. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'on prend soin de notre territoire de façon globale. On prend soin de notre communauté, mais on prend soin du territoire aussi. Et ils en ont bien besoin parce que voilà quoi. Enfin moi vraiment je vois des luttes tout le temps et j'en ai documenté tellement et en fait c'est juste épuisant quoi. Genre vraiment c'est épuisant à regarder. Donc voilà, on est un peu partout quoi.
Ouais, ça fait pas mal écho en tout cas à ce qui peut se passer ici, ce que tu racontes. On voit qu'on est en effet dans plusieurs assos, que ce soit des assos qui réfléchissent à la question coloniale, à l'antiracisme. Enfin, ça, c'est des questions qui nous animent, tous et toutes un peu en ce moment. Et ça me fait un peu rebondir ce que tu as raconté sur ces lieux et aussi sur les prides qui permettent aussi de créer des espaces de visibilité, parce que c'est souvent ce qui nous manque dans le Royan, dans le Vercors, et puis j'imagine dans plein d'autres campagnes. Et je voulais te faire écouter là un autre extrait sonore. Donc, c'est une personne trans queer qui parle des stratégies qu'il va mettre en place pour exister, résister dans le Royan, et ça fait pas mal écho à ce qu'on vient de dire.
Bien évidemment, pour moi, je suis une personne trans, je me définis comme queer, mais je pourrais juste me définir comme trans et pas comme queer. Et pour moi, c'est bien au-delà de ça. Et donc oui, je me définis comme queer. Bah, je pense que j'ai des stratégies comme toute personne queer à son échelle. Malheureusement, on ne va pas se mentir. C'est essayer de pas trop faire de bruit par rapport à ça. Et ça, par exemple, c'est un truc avec lequel je suis pas d'accord avec moi. Mais si je me regarde et que je me mens pas... Donc là, tu vois, tu me poses la question, je me dis, vas-y, je vais répondre honnêtement. Oui, bien sûr, j'ai des stratégies. J'ai pas trop envie que les gens ils soient trop mal à l'aise, de pas faire bien à côté de moi. Et en fait, c'est trop merdique, tu vois. Même moi, c'est un peu comme si j'avais mon keuf interne qui était là et qui se dit, voilà. Donc, ouais, j'ai des stratégies. Je suis pas d'accord avec mes stratégies. Je travaille sur, vas-y, viens, on arrête ça. Et en fait, on n'a pas à s'excuser. Et si jamais il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise, ben, c'est à elle de faire le taf en quelque sorte, mais tu vois, c'est pas forcément à moi de porter la charge, et je me rends compte que bah ouais, grave, je porte la charge d'autres personnes. Mais est-ce que c'est le fait d'être à la campagne, je sais pas si c'est ça qui fait ça, je suis pas sûr.
Donc là, on vient de parler donc de stratégie qu'on met en place, donc là plutôt stratégie du silence et de l'invisibilisation. Ce qui fait écho en fait à l'absence de visibilité des personnes LGBTQIA+ et queer dans nos campagnes, en tout cas dans le Royan. Est-ce que toi, t'as envie de réagir là-dessus
Ouais, bah je pense que les ruralités, alors peuvent être un lieu aussi de contrôle social. On va pas se mentir. C'est d'ailleurs Lumière Lapré, qui est une activiste qui a écrit un livre qui s'appelle Ces gens-là, l'explique très bien, bah, notamment sur le contrôle social des femmes quand la voiture est garée ou pas et que les voisins voient que la voiture est garée, etc. Je pense que ça, on peut pas le nier. Et les prides sont des lieux où on peut être soi-même 100%. Et aussi, nous, ce qu'on se dit souvent, c'est que les moments de joie comme ça, comme les prides, où là, bah, samedi, on fait une soirée Saint-Valentin, voilà, genre en mode pour danser, bah, en fait, c'est aussi des moments où on n'est pas militant-militante, quoi. On milite pas. Évidemment, la pride, on milite, mais je veux dire, on est un peu plus relâché, quoi. C'est des moments aussi entre nous, c'est des moments où on peut profiter, c'est des moments où on peut être... on n'est pas dans quelque chose de tendu, on n'est pas cette espèce de paradoxe au quotidien où on a envie d'être visibilisé, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être visibilisé ? Quand on est out, ben voilà, si on a des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, en fait, les gens peuvent le voir. Enfin, et en fait, il y a ce truc aussi où beaucoup le travail aussi, où on ne dit pas forcément dans son travail qu'on est queer, là, là. En fait, C'est des moments où on peut relâcher ça un peu. Ça fait du bien parce qu'on est quand même aussi socialisé dans une forme d'hypervigilance, que ce soit en ville ou à la campagne. Je pense que ça, on peut être d'accord tous pour dire qu'on est hyper vigilant, vigilante tout le temps. C'est compliqué parce que ben, j'ai pas envie d'être dans l'injonction à faire de la pédagogie. Mais j'ai dit à une table ronde à Cluny, en Bourgogne, j'ai dit, je crois qu'en fait, je sais pas si on a le temps de pas en faire, en fait. Et je comprends qu'on puisse voir la campagne comme un lieu de refuge et de repos. Et je souhaite que ça le soit. Mais si on veut vraiment y habiter, en tout cas, c'est la question que je me pose aussi souvent, c'est toutes ces contradictions-là. Si on veut vraiment y habiter, est-ce qu'on a le choix de ne pas faire un pas vers celles qui nous entourent? Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, si ce n'est l'échéance de l'année prochaine, quoi. Et je crois qu'en fait, les gens, ils sont moins arriérés ou moins cons que ce qu'on veut bien le croire. Ils ont aussi envie qu'on fasse des pas vers eux, je pense. Et après, je ne parle pas des gens qui sont vraiment violents et tout. Hein. Je parle des gens qui peuvent paraître un peu réac, mais qui ne le sont pas vraiment, ou qui ont envie d'engager une discussion, mais qui sont maladroits. Et je pense que ça, dans les interactions quotidiennes, bah, on n'a pas vraiment le choix, quoi. En ruralité, bah, ton voisin, c'est ton voisin, ton épicier, c'est ton épicier, et puis ton boulanger, c'est ton boulanger, quoi. Et ton facteur aussi, quoi. Et en fait, c'est dans ces moments-là où peut-être on peut trouver des espaces de... Je sais pas, de nuances, un peu, de faire un pas, voir si ça va. Parce que je pense qu'on est quand même aussi en 2026 et que, bon, bah, c'est pas comme dans les années 80 quand même, quoi. Les gens, ils sont un petit peu au courant, même si ils ont pas envie de l'être. Mais en tout cas, il y a un truc de, OK, peut-être que c'est plus possible et peut-être qu'on peut nouer une relation amicale ou polie avec quelqu'un qu'on côtoie régulièrement, sans forcément afficher tout de suite toute la panoplie qu'on a en nous de ce qu'on est, de notre fierté, mais tout en est... En fait, il faut savoir jauger, quoi. Et ce que me disait aussi mon ami Gabriel, qui est dans le premier épisode, c'est réfléchir à ce qu'on a en commun, en fait, avec les gens. Ce qu'on a en commun, ça peut être le jardinage, ça peut être, je sais pas, le vélo, j'en sais rien, la course à pied, peu importe. Et en fait, parfois, faut pas... attraper les gens par le fait que, ben oui, mais toi, t'es contre les personnes queer et moi, je suis queer et du coup, on s'entendra jamais. En fait, parfois, une relation amicale ou quoi, elle vient aussi dans une espèce de détournement. Et ce qu'on a en commun, c'est des références qu'on a en commun. Si on vit en ruralité, on a des références communes, la montagne, le jardinage, la forêt, enfin, j'en sais rien. Et on peut, en fait, très bien nouer des liens comme ça. Et moi, j'ai envie que ce soit ça. Mais après, dans les faits, c'est dur, quoi. Je veux pas faire une injonction, mais... Si on veut vivre là, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix non plus, quoi.
Et ça me fait écho au fait que bah, c'est une réalité et en même temps, il reste quand même des espaces où il y a malheureusement encore et toujours des discriminations et des LGBT-phobies. Et là, il y a un épisode de ton podcast qui est dédié à ça. On ne va pas pouvoir balayer tous les épisodes de ton podcast. Il y en a combien maintenant d'ailleurs d'épisodes ?
Il y en a 5, je crois. Il y a 5 gros épisodes. C'est des épisodes docu qui me prennent des plombes. Et après, il y a beaucoup d'épisodes bonus, des tables rondes ou des sur les langues territoriales. Et du coup, ben, l'idée, c'est d'alimenter un peu parce que sinon, vraiment, il n'y aurait pas grand-chose sur le flux podcast. Aussi, j'ai choisi de le diffuser de façon artisanale. C'est-à-dire que j'ai choisi d'aller aussi là où les assos m'invitent, où les festivals m'invitent pour aller discuter et diffuser des bouts de certains épisodes où voilà, il manque quelques régions. Mais j'ai fait un petit tour de France et... pour voir aussi les différences, pour discuter, etc., et ouvrir des portes, voilà.
Et on invite du coup tous nos auditeurs et nos auditrices, que vous soyez queer ou pas, à écouter donc cette série de podcasts, donc ça s'appelle Chant Queer. Et comme tu viens de le dire, il y a les derniers épisodes, c'est sur les langues territoriales. L'idée, donc, le point de départ, c'est de souligner l'importance de trouver des mots pour pouvoir vivre son identité queer dans ces langues territoriales. Donc il y a 3 épisodes, est-ce que tu peux nous en parler rapidement ?
En fait, moi, l'occitan fait partie de ma culture, puisque je suis née dans le Tarn, et que ben, mes grands-parents maternels, au moins, en avaient quelques notions, et que, ben, en fait, à Toulouse, le métro, les stations sont dites en occitan, les rues, en fait, sont marquées en occitan. Enfin, je veux dire, l'occitan, il est partout, quoi. Ça fait longtemps que ça me travaille comme sujet, donc j'ai fait quelques sujets dessus au fil du temps, mais là, je me suis dit... En fait, j'ai rencontré Laurie, donc de Camp Lioré, qui fait, en gros, de la sérigraphie et plein de plein de super belles choses en occitan et qui, en fait, elle raconte sa queerness en occitan, quoi. Et avec vraiment ce discours-là, et je la trouve vraiment super, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui doivent se passer dans d'autres langues. Et j'ai entendu parler de ce fameux lexique en breton. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Et du coup, après, voilà, j'ai un petit peu exploré. Donc, je voulais faire le basque aussi. Bon, un peu plus dur à trouver, le catalan aussi. Et le corse, bon, le corse, j'ai laissé tomber. Mais je me suis dit, bah, en fait, il y a aussi ben, voilà, tous les dom-toms. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu en créole et tout. Et j'ai vu que Brandon faisait ce projet artistique. Et en fait, je me suis dit, OK, bah, en fait, je crois que j'ai au moins 3 épisodes. Ça ne racontera pas tout, mais ça racontera assez. Et en fait, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est que ben, bon, je suis très fan du texte que Laurie dit au tout début en occitan. Mais en fait, j'ai été émue à chaque texte, alors je ne comprends pas la langue, quoi. C'est, ouais, je sais pas, je trouve que c'est trop important parce que ça fait partie de nos cultures dans le sens culturel, quoi, local. Et c'est aussi des interdits. C'est aussi une discrimination que vivent encore, bah, notamment à La Réunion, les personnes qui parlaient ces langues. Nos grands-parents, ils ont subi ça, en fait. Cette interdiction de parler occitan ou de parler breton ou créole. Et en fait, ça vient, c'est nous, quoi. En fait, c'est nous et c'est cette réappropriation, moi, qui m'a intéressée. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, voilà, c'est magnifique, quoi, en fait. Et c'est aussi le pont entre deux espaces, comme l'explique Laurie, mais je pense que c'est aussi le cas pour Cam et Brandon. C'est que, en fait, Laurie, elle se retrouve dans des événements occitans comme dans des événements queer. Et, bah, en fait, c'est pas du tout les mêmes questions qui arrivent. Ça m'a trop intéressée. Je suis très fan, en fait. Voilà, je suis très fan des langues territoriales, quoi.
Ouais, ça, c'est assez beau, moi, je trouve, de les entendre parler de cette réappropriation des termes. Comme tu disais, il y a le breton, l'occitan et le créole. Peut-être qu'il y en aura d'autres après, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ouais, sur cette idée de la réappropriation et de la visibilisation encore de ces identités queer dans plusieurs cultures. Et ça m'amène doucement à la question de la visibilisation médiatique aussi de ces ruralités queer. Et du rôle des médias et du récit, parce que là, donc, on parle de langue territoriale, mais ces récits, en fait, ils existent aussi ailleurs. Donc, on parle souvent du manque de représentation quand on est queer, ou en tout cas quand on fait un coming in, coming out, notamment à la campagne. C'est pas des espaces où on rencontre beaucoup de modèles queer. Et t'es journaliste, est-ce que pour toi, raconter ces histoires, c'est avant tout un travail journalistique, ou alors est-ce que ça part d'un manque ou est-ce que ça part d'une forme de militantisme dès le départ?
Alors, bah, en fait, le truc, c'est que pendant très longtemps, moi, je n'ai pas voulu parler des questions LGBT en étant journaliste. Parce que je ne voulais pas être la... Bon, je vais dire assez crûment, mais je ne voulais pas être la gouine qui parle des gouines, quoi. C'était, voilà, je ne voulais pas qu'on me mette une étiquette, surtout pas... Là où je travaillais, je me suis déjà, je faisais des sujets féministes. J'étais la féministe de service, donc du coup, ben voilà. Et en fait, il y a beaucoup ce truc de militantisme. Donc on va nous reprocher, donc à moi, militante par ailleurs LGBT féministe, mais aussi à ma collègue Estelle, par exemple, qui est spécialisée sur l'écologie et qui par ailleurs est militante écologiste. On va nous reprocher d'être militante. Là, on reprochera jamais à quelqu'un. Qui fait des papiers, qui fait des papiers très capitalistes, d'être un militant capitaliste, quoi. Alors qu'il va probablement dîner avec toutes les huiles parisiennes. Enfin, et du coup, en fait, oui, je milite en fait pour les droits des femmes et j'en suis fière. Je milite pour les droits LGBT, j'en suis fière. Mais dans mon travail journalistique, il n'est absolument pas question de militantisme, dans le sens où ben, je fais toujours ce qu'il faut, quoi. Pour mes papiers, du moins, je fais le contradictoire. Il n'y a jamais de parti pris. Après, sur les sujets, ben oui, c'est des sujets plutôt féministes. Et voilà. Mais sur le champ queer, c'est un peu plus du docu. Du coup, il n'y a pas ce truc de contradictoire, etc. C'est moins de l'enquête, quoi, journalistique. Et en tout cas, ben moi, j'avais envie de le faire comme je voulais. Déjà, c'est pour ça que je le fais en indépendante. Je voulais... je sais pas, je voulais le faire, je voulais l'écrire de A à Z, je voulais le produire, je voulais le réaliser. Alors, il n'est pas parfait, mais bah, il a le mérite d'exister. Et c'est sûr que c'était pour visibiliser. Moi, j'avais toujours dit que je voulais faire du journalisme pour faire entendre des voix qu'on n'entend pas. Bah, en fait, la mienne, elle n'est pas entendue. Donc, bah, déjà, première chose, quoi. C'est sûr que ça part de moi. Mais en tout cas, moi, je le conçois quand même comme une enquête journalistique, dans le sens où bah, je vais faire du terrain... Je mets en perspective, c'est jamais gratuit, c'est pas juste ma vie, c'est pas juste des interviews, c'est plein d'autres choses. Après, dans le milieu médiatique, c'est très difficile, en fait, de... Enfin, moi, ça m'a pris du temps de parler de sujets queer. Enfin, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on me les achète pas, donc c'est très difficile de vendre des sujets queer ruraux malgré de nombreuses tentatives. Je n'ai jamais vendu un sujet sur ce sujet à aucun média à qui j'ai proposé. Pourtant, j'ai beaucoup proposé, notamment sur les prides, parce que voilà, je voulais montrer la diversité des prides rurales et à quel point elles sont plus radicales, etc. Bon, jamais personne ne m'a rien acheté, sur la santé non plus. Enfin, c'est très difficile. Par contre, j'ai eu des médias qui ont parlé du podcast, ce qui a quand même beaucoup changé les choses. Et ben, je pense que je peux faire déjà une pré-promo. J'écris un livre sur le sujet. Du coup, qui sortira à l'automne.
Sur la question de l'absence de représentation médiatique ?
Non, sur les questions queer en milieu rural. Voilà, avec un angle un peu plus intersection des luttes, quoi. Et voilà, donc, en fait, ce que j'ai vu dans ce sujet, c'est qu'il faut créer ses propres espaces médiatiques. Parce qu'avant ça, j'avais fait une série sur les femmes street artistes et on a eu de la presse à fond, vraiment, quoi. À chaque épisode, on avait plein d'articles, en fait. Parce qu'on faisait sur plusieurs villes de France et tout. Et en fait, on avait des articles tout le temps, quoi. Et là, pour avoir quelques articles ou quelques relais presse, en fait, ça m'a pris énormément de temps. Et pourtant, dans les milieux militants, je voyais que le podcast marchait. Et en fait, je me dis, OK, il n'y a pas d'espace, en fait. Si ce n'est pas empaqueté comme ils souhaitent... donc, quand je dis « ils », c'est les médias, on va dire, parisiens, parce qu'on est quand même dans une situation en France où tous les médias sont concentrés à Paris. Et il faut que ce soit tourné d'une certaine façon, il faut que ce soit très accrocheur. Et du coup, en fait, faut se créer ces opportunités. Il y a quelques articles qui sortent, et puis le film d'Antoine, il fait quand même beaucoup de bien. Mais c'est super dur, quoi, d'aller dans ce sujet, de vendre des sujets, des angles et tout. Et moi, j'ai essayé plein d'angles.
Et moi, ça me fait écho. J'ai fait une formation en fin décembre là, sur médias et LGBT-phobie. C'était organisé par Radio BLV et il y avait justement l'association des journalistes LGBTQ qui était là et qui parlait de justement cette absence de représentation médiatique d'une manière générale pour les questions queer et LGBT. Et quand c'était présent, c'était plutôt traité en faits divers plutôt qu'en faits de société. Et ça permet aussi de pointer le fait qu'aujourd'hui, les médias, c'est quand même quelque chose d'hyper important ce qui est en train de se passer. C'est politique. Quand on voit qui possède les médias, qui les achète et pourquoi, donc pour faire passer des idées d'extrême droite là-dedans. Et donc de souligner aussi l'importance des médias indépendants. Il y en a des très beaux en France et c'est trop chouette. Et on espère que du coup, ça... ces questions queer vont pouvoir venir dans ces médias-là aussi. Et dans quelques semaines, il va y avoir la question des municipales qui va se présenter, donc en mars. Ça fait écho dans le sens où, dans Pédale Rurale, il y a une scène où les protagonistes sont dans un conseil municipal pour un peu défendre l'organisation d'une pride en milieu rural. Et donc là, on voit clairement des réactions parfois hostiles, parfois peureuses du conseil municipal. Nous, ça nous a fait pas mal parler dans le Royan une fois qu'on a vu ce film. On s'est dit, ah tiens, ça m'a fait penser à tel élu ou tel élu. Et là, en fait, du coup, on commence à avoir les tracts, les programmes des différentes listes qui se présentent. Et j'ai l'impression que la question queer, elle est complètement absente. Et moi, je voulais te demander, te lancer un peu là-dessus, sur ce rapport entre politique publique, qu'est-ce que peut faire un maire aussi localement pour soutenir... on n'a pas parlé des soins pendant l'interview, mais en fait, l'accès aux soins et aux services publics, quand on est une personne queer, qu'on parle de santé physique ou de santé mentale, c'est pas évident aussi en milieu rural. Est-ce que toi, t'as rencontré peut-être des élus, des maires qui prennent le sujet à bras-le-corps, ou plutôt, est-ce que tu as l'impression que c'est une absence ?
Alors moi, je suis en train de préparer là un épisode sur être élu ou candidat, candidate municipale ou plus générale, parce qu'il y a aussi une élue de la région Bourgogne-Franche-Comté. Moi, ce que je vois, c'est que ça dépend qui est à la tête en fait de la mairie. Alors après, il faut quand même savoir que je pense que les habitants et habitantes du Royan le savent, mais personne ne se presse pour être maire. D'une commune de moins de 1000 habitants. Enfin, globalement, c'est plutôt l'inverse. Hein. Tout le monde court pour pas l'être, quoi. Parce que les moyens sont quand même assez limités. Il y a très peu de projets structurants. Il y a peut-être sur des villages, il y a un projet par mandat, quoi. Et puis ça s'arrête là. C'est vrai que l'échelle municipale, ça dépend de la taille de la ville ou du village. Mais L'échelle municipale n'est pas forcément celle qui est la plus propice par exemple, à faire des subventions ou quoi, parce qu'on peut faire des petites subventions, mais il faut faire des subventions à toutes les assos. Enfin bref, c'est plutôt les départements et les régions et l'État qui vont subventionner. Mais en tout cas, on peut faire d'autres choses, en fait. Ne serait-ce qu'être sympa quand un groupe demande de faire une Pride. Ça peut être une première chose. Mettre à disposition tout un tas de choses logistiques, en fait. Les tables, les chaises, les salles des fêtes, etc. Prêter des salles, donner la possibilité de faire des photocopies, des trucs hyper basiques, mais en fait qui peuvent être déjà très, très aidants pour des collectifs et des associations. Après, voilà, on peut aussi s'afficher en étant élu de la République. On peut venir, en fait, à la Pride. C'est pas interdit. On peut envoyer des mots pour dire bah, merci pour ce que vous avez fait. On peut... Enfin, je sais pas. En fait, il y a plein de façons de prendre position sans en faire un sujet qui va venir au conseil municipal. Je sais pas, définir une action du mandat. Parce que, ben, évidemment, que les élus municipaux ont quand même pas beaucoup de marge de manœuvre pour parfois faire des choses, hein. Enfin, on va pas se mentir, mais en fait, on peut déjà faire plein de choses sans impliquer de l'argent. Et après, ben, la scène dans Pédale Rurale, elle est révélatrice de ce qui peut aussi se passer pour les associations et collectifs queer ruraux, c'est que, ben, en fait, aucune mairie... si ce n'est des mairies RN, ne dirait non à une Pride, en fait. Enfin, parce que ben, c'est une manifestation comme une autre, en fait. Mais par contre, mettre des bâtons dans les roues ou suggérer des inquiétudes qui sont déjà présentes sur les épaules des personnes queer, ben, ça ne fait que renforcer, on va dire, la peur qui peut grandir dans certains territoires. Et en fait, ben, on peut voter des motions dans des conseils municipaux de soutien à des associations, à des collectifs. Déjà, première chose. Et puis ensuite, après, ben, on peut aussi, ben, en tant qu'association, si ça se passe très mal, changer de ville, en fait, ou changer de village. C'est ce qu'a fait l'association Les Bonnes Débroussailleuses à Villefranche-de-Rouergue, qui est partie, du coup, à Najac faire sa Pride en Aveyron. Parce que, ben, en fait, avec Villefranche, je crois que c'était pas forcément la grande entente. Et ça arrive plein de fois. Et je pense que, en fait, ne pas hésiter à se dire, au pire, on va dans un autre village plus petit, c'est pas... et être bien accueilli, en fait, ça change tout. Voilà, après, on peut être élu et ne pas être concerné et être soutien. On peut aussi poser des questions, c'est pas interdit. Et quand on est queer et qu'on est élu, moi, je conseille à tout le monde d'y aller parce que le renouvellement des élus locaux, ruraux, est pas immense. Et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui aimeraient bien partir à la retraite, en fait. Genre vraiment que ça fait 40 ans qu'ils sont maires, ils n'en peuvent plus, quoi. Aussi, ça témoigne, je sais pas, si on a, je sais pas, la trentaine, la quarantaine, ça témoigne aussi d'une forme de jeunesse, de nouvelle envie pour le village, etc. Et en fait, on peut aussi introduire, dire, moi, je fais partie d'une asso, c'est une asso queer. Voilà, est-ce qu'on peut faire des actions ensemble? Et globalement, ça marche. Hein. Nous, on va faire un truc sur la parentalité queer avec la communauté de communes du coin, avec le pôle petite enfance, du coup. Et je pense que c'est en nouant des liens et en essayant d'aller à droite à gauche et en disant, en fait, nous, on est là et tout, qu'on peut faire des choses. Et puis, y a une question de représentation. Est-ce que là, j'ai interviewé du coup Sarah Persil, qui est vice-présidente à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc vice-présidente, une femme lesbienne qui a, je sais pas, moins de 40 ans. Et en fait, pour moi, ce type de rôle, en fait, dans la société, ce type de pouvoir, ça permet aussi des représentations qui sont... On se dit, c'est possible, en fait. Moi aussi, je peux faire de la politique si j'en ai envie. Voilà. Après, moi, j'adore l'échelon municipal. Je trouve que c'est l'échelon le plus chouette parce que, en fait, c'est concret. Et voilà, en fait, la mairie, elle a tout le monde, en fait. Donc, faut pas hésiter, quoi, à entamer le dialogue aussi et pas hésiter à se présenter sur des listes, quoi. Je pense que c'est comme ça que les choses changeront aussi, quoi.
Ouais, résultat dans quelques semaines.
Ouais, on verra.
En tout cas, c'est assez inspirant de finir l'interview là-dessus. Ça ouvre plein de choses et puis du coup, ça nous donne aussi très envie de découvrir ce futur épisode. T'as des idées de quand est-ce qu'il va pouvoir sortir? On sait que ça met du temps quand même à produire un podcast.
Alors, normalement, avant le 15 mars, l'idée à la base, c'était plutôt de faire des interviews. Mais en fait, j'ai envie de le monter en mode vraiment épisode docu. Et là, j'ai 3 personnes, donc 2 qui sont élues et 1 qui est candidate. Et c'est dans des endroits hyper différents de France, donc c'est trop chouette. Et voilà.
Eh ben, on a hâte. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un petit rappel sur où est-ce qu'on peut t'écouter et écouter ce podcast qui s'appelle Chant Queer. On le trouve sur toutes les plateformes de podcast. Est-ce que tu as d'autres endroits où tu diffuses?
Non, sur ouais, toutes les plateformes. Bah, y a, en fait, mon diffuseur, c'est Ocha. Donc, si vous tapez Jean Queer, Ocha, vous allez le trouver. Puis sinon, bah, toutes les plateformes d'écoute que je ne citerai pas parce qu'il y en a trop. Mais voilà, il y a vraiment partout. Quoi.
Et bon, super. Et juste pour conclure, moi, je voulais te demander si tu avais un petit coup de cœur médiatique ou une émission de radio, de la presse écrite, un film que tu avais envie de nous partager, une petite référence comme ça pour finir sur ces sujets ou pas forcément d'ailleurs.
Ouais, on a parlé hier, c'est marrant, avec des copaines. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui parle pas du tout des questions queer en milieu rural, mais des archives, qui s'appelle Nelly et Nadine. C'est un film documentaire qui retrace l'histoire d'amour de deux femmes qui ont survécu au camp de Ravensbrück et qui, en fait, se sont aimées toute leur vie. Et juste leur histoire, elle n'est pas allée jusqu'à nous avant que la petite fille de Nelly découvre des lettres d'amour dans les malles de sa grand-mère et qu'en fait il y a toute l'histoire qui se met en place et c'est un magnifique film. Moi je l'ai vu à Saillant dans la Drôme d'ailleurs grâce au Café L'Oignon, café associatif, et ben c'était vraiment chouette et je sais pas, il m'a beaucoup marqué, moi j'en garde vraiment voilà. Et puis aussi bah, la nouvelle série Phénomène, la Etude Weavery, voilà, si vous l'avez pas regardé, regardez-la parce que, voilà. Non mais vraiment franchement voilà.
Et bon, ça peut occuper pas mal d'après-midi et de soirée parce qu'il pas mal en ce moment dans le Royan, donc de quoi être chaud. Et puis ça ouvre plein d'autres sujets sur la transmission et les archives LGBT, et ça, il y a pas mal de ressources sur internet qui sont trop chouettes. Il y a des assos et des collectifs qui bossent là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Élodie Potente pour ton temps. Donc je le rappelle, tu es journaliste et tu as produit et réalisé la série de podcasts Chant Queer qu'on peut retrouver un peu partout sur internet, sur les plateformes d'écoute de podcasts. Merci.
Merci beaucoup. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. Oh,